Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Si tu ne me connais pas, j'ai cofondé une startup dans la HR Tech de 0 à 1. J'ai géré tout le développement commercial jusqu'à revendre la boîte au groupe Hello Work, un des leaders de recrutement. Depuis, j'aide les entreprises B2B à performer. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser l'objectif et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai échangé avec Uri Diallo, fondateur de ODK Consulting et expert en automatisation. Nous serons ensemble pendant environ 45 minutes. On va parler de comment automatiser ces process de vente avec des exemples concrets à chaque étape du cycle de vente. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Hello Uri, ça va ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va, la forme, très bien. Écoute, très contente de te compter parmi les invités de ce podcast.
J'avais hâte.
Trop bien. Du coup, effectivement, je t'ai invité sur ce podcast parce que j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui touche toutes les équipes de vente, globalement, même les commerciaux, qui est l'automatisation. Comment réduire au maximum les tâches à faible valeur ajoutée. Du coup, tu es un peu spécialiste de cette, beaucoup spécialiste de ces questions-là d'automatisation. Tu passes ta vie à tester un certain nombre d'outils, à setup en fait des environnements pour les sales ou même pour d'autres, en tout cas pour faire en sorte que des équipes, que ce soit tech, sales, product, etc., soient le plus performant possible. Je vais quand même te laisser te présenter. Et après, du coup, on parlera automatisation parce que je pense que c'est un sujet où on n'est jamais vraiment tout le temps à jour, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, écoute, moi, Uri, j'ai créé ODK Consulting. C'est un organisme de formation et cabinet de conseil. Notre job à nous, en fait, c'est de permettre aux boîtes d'automatiser les tâches les plus chiantes. C'est comme ça que je le dis et c'est comme ça que c'est. Tu vois, typiquement, c'est ce que je dis à mes clients quand je suis en call, c'est à partir du moment où tu prononces la phrase « Ah, ça me fait chier, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui pourrait faire ça », je vais tout de suite me dire « Ok, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui peut te permettre de pouvoir baisser certaines tâches ?» Et en fait, aujourd'hui, en 2023, ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement d'outils que tu peux presque tout automatiser. Et en fait, replacer, ce que je dis moi pour les commerciaux, c'est replacer le commercial au bon endroit, c'est-à-dire devant des prospects intéressés et intéressants, plutôt que là où il va aller faire du copier-coller, machin. J'ai encore eu un call l'autre jour avec un prospect. Enfin, elle m'a partagé son écran. Je lui ai dit, mais comment tu fais ? Elle m'a partagé son écran. Je vois des clics, des copier-coller. J'ai eu le vertige. J'ai le vertige et en fait, c'est ça notre job, c'est d'accompagner les boîtes à automatiser les process qu'on peut automatiser pour qu'ils puissent récupérer de la performance, récupérer du temps et qu'ils soient vraiment focus là où il y a vraiment besoin d'eux, tu vois.
Yes, je suis complètement d'accord, c'est un sujet en fait, en tout cas, que moi-même j'ai, c'est toujours essayer de voir là où tu as de la valeur, que ce soit toi qui fais, et là où en fait, ça n'a aucun sens, aucun intérêt, que tu perds du temps. Qui dit t'en gagner, dit plus de prospection, plus de contact avec des clients et donc plus de ventes. Alors, moi, en fait, ce qui m'intéressait de t'inviter particulièrement toi, c'est qu'on a eu cet échange-là avant ce podcast, où en fait, tout le monde aujourd'hui parle d'automatisation parce qu'il y a pas mal de contenu sur le sujet. Comme tu dis, il y a plein d'outils qui permettent d'automatiser plein de tâches. Sauf que le problème, c'est que parfois, on a deux types, j'ai l'impression, c'est ma vision, on a deux teams. On a une team qui va justement faire comme ton prospect, continuer à faire des trucs à la mano parce qu'ils ne savent pas en fait comment faire autrement. Et puis, on a une autre team qui va être en mode genre, je vais tester plein d'outils, je vais essayer d'automatiser un max de choses, mais ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de résultat. Parce que pour moi, l'automatisation, c'est cool à partir du moment où en fait, ça permet vraiment d'avoir des résultats. Du coup, j'aimerais parler de ça avec toi. Quelles sont les conditions déjà avant pour pouvoir commencer à vouloir automatiser ?
Alors, en fait, ça, c'est un sujet qui est archi cool et c'est une question qu'on me pose tout le temps. En fait, il faut trouver le juste milieu. Tu ne peux pas tout automatiser parce que tu vas perdre de l'authenticité et quand tu veux prospecter notamment, si tu fais de l'automatisation, enfin, je pense que toi, moi, on reçoit tous ces messages incroyables qui font 2 pages et demie sur LinkedIn où on te dit « oui, bonjour ». Alors moi, parfois, on prospecte sur des trucs « bonjour, je me demande si vous cherchez un poste dans ta… » Je me dis « mais il y a écrit « fondateur ». Sur mon titre, qu'est-ce que tu m'embêtes ? Et je réponds toujours en disant, ouais, merci, mais en fait, l'automatisation, c'est bien, mais lisez, tu vois. Et c'est là, où, en fait, où on se dit qu'il faut une part de manuel parce que, tu vois, par exemple, quand tu automatises, en fait, l'automatisation, ça doit être ta voiture. Toi, tu veux aller d'un point A à un point B et les outils, c'est ta voiture. Ça veut dire que tu dois apprendre à conduire. Tu ne peux pas juste te poser et te dire, ce n'est pas un taxi. Tu ne peux pas te poser et te dire, on y va. Il faut que tu apprennes à conduire, que tu comprennes un peu comment tu vas avancer. Et c'est là où, en fait, les gens se perdent parce qu'ils se disent, oh, génial, je vais pouvoir toucher 1000 personnes de plus, ce qui est vrai. Mais si tu les touches mal, ça ne sert à rien. Tu vois, si tu vas juste leur envoyer le message comme tout le monde, un truc aseptisé ou long où tu vas parler de toi. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, le transactionnel, c'est mort. Donc, tu es plus dans le relationnel. Enfin, on a tous vécu le Covid quand même. Enfin, c'est un truc qui était super compliqué à gérer. Et depuis, en fait, tu te rends compte que, bah, tu vois, quand tu fais des visios avec des gens, tu ne mets plus une chemise. Tu vois, parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu vois, moi, j'ai fait un call l'autre jour. Le CEO de la boîte, il était en sweatshirt à capuche, en mode mal rasé. Et on a discuté comme si de rien n'était. Et même dans le verbal maintenant, on est plus dans un truc humain. Donc, ce qui veut dire que l'automatisation, pour moi, c'est un vecteur incroyable pour que tu puisses gagner du temps. Mais tu dois garder cette authenticité et cette humanité qui va faire que derrière, tu vas toucher les gens. Tu vois, on a le droit d'être cool quand on prospecte. C'est OK. Parce qu'au final, tu vas toucher les personnes qui te ressemblent et tu auras plus plaisir à bosser avec eux. Par contre, tu vois, si tu fais un call, moi, par exemple, toi, tu le sais, on en a parlé, j'ai des enfants. Parfois, je bosse chez moi, j'ai des enfants qui passent à droite, à gauche. Quand tu fais un call avec quelqu'un et qu'il ne supporte pas parce qu'il y a des enfants qui passent, je me dis non, je ne peux pas bosser avec lui. Tu vois, yes. Parce qu'il y a un mindset à avoir aussi. Et pour revenir à ce que tu disais, l'automatisation, pour moi, c'est un formidable levier parce que ça peut te permettre d'aller plus vite. Mais il faut quand même que tu aies certaines bases qui vont te permettre d'être plus pertinent.
OK.
Si c'est juste déployer le mauvais message, ça ne sert à rien. Enfin, forcément, tu vas toucher du monde. Donc, si j'envoie 1 million de messages, effectivement, je vais avoir des réponses. Mais tu peux en envoyer 150 et avoir beaucoup plus de réponses en taux, en fait. C'est les taux qu'il faut regarder.
Complètement d'accord. Du coup, si on rentre un peu plus dans des usages propres, par exemple, j'aime bien ta façon de dire. Moi, ce que je disais, justement, j'avais fait une conférence à Bordeaux pour la French Tech où le sujet, c'était construire une sales machine. Et justement, dans mon discours, ce que je disais, c'est que construire une sales machine, ce n'est pas les outils. Donc, je parlais de toutes les choses avant, c'est-à-dire, en fait, effectivement, ma prospection, déjà, ça commençait déjà sur le ciblage, savoir extrêmement bien cibler, enfin, savoir qui je cible exactement, qui est mon client idéal, qui est mon persona, même si tout le monde a l'impression de super bien maîtriser ces sujets. En vrai, à chaque fois, on voit que c'est toujours un problème, tu vois. Ouais. Et justement, quand il y a l'automatisation derrière, c'est là où on voit qu'il y a un problème, en fait. Tu vois, c'est parce qu'on augmente, ce que j'aime bien ce que tu dis, c'est que, à partir du moment où tu as une force de capacité plus importante de démarcher, de cibler, bah, si tu as mal fait le job avant, bah, tu te retrouves avec des problèmes.
Ça sert à rien. C'est là où tu vois que ça ne sert à rien. En fait, c'est que tu auras juste envoyé ton message à 10 000 personnes et au final,
exactement.
C'est nul.
Exactement. Et du coup, j'avais fait justement ça, tu vois, ciblage, prospection et aussi également dans le cycle de vente, ce que tu pouvais faire en disant, voilà, en fait, la vraie sales machine, c'est les process en fait que tu mets en place pour tout ton cycle de vente. Et ensuite, quand tes process sont cool, marchent, que tu as des résultats, là, tu intègres en tout cas la partie outil. Du coup, je ne sais pas si ce serait intéressant peut-être là de faire en sorte de parler des différentes étapes de cycle de vente, tes sales, donc tu maîtrises plutôt bien tout ça. Peut-être partir du ciblage. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place d'abord en process? Comment toi tu fais d'abord sur le ciblage? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place déjà comme automatisation pour aller plus vite? Quels sont les outils? Et aussi après, on peut faire l'exercice pour la prospection. Et puis aussi, on peut faire l'exercice également pour le closing, parce qu'on parle souvent d'automatisation pour la partie prospection, mais il y a plein d'outils assez stylés qui existent sur la partie vente, rendez-vous. Voilà, je te laisse...
Bah, sur le ciblage, en réalité, je pense que j'ai fait comme tout le monde quand on était à l'école. Tu sais, quand on te dit de faire un persona, tu vas, tu prends ta feuille, tu dis alors, elle s'appelle Jacqueline, elle a tel âge, etc., etc. Et en fait, à un moment, j'ai vu pas mal de conférences sur le sujet et je me suis dit, vas-y, j'arrête ça. Et je vais faire, en fait, je vais partir de persona scrappable parce qu'au final, ça me fait gagner du temps. Plutôt que de te dire, ouais, il faut tel. Il y a plein d'éléments que tu prends et que tu n'as pas besoin. Son âge, bon, tu as besoin d'une tranche. Où elle habite, ok. Mais après, marié, enfant, etc., quand tu es en B2B, en tout cas, ça ne sert à rien. Enfin, c'est vrai. En réalité, déjà, c'est des infos que tu ne peux pas trouver. Et donc, plutôt que de perdre du temps sur les infos que tu ne peux pas trouver, je préfère me baser sur, par exemple, Sales Navigator sur LinkedIn. Je prends Sales Nav, je l'ouvre, je regarde les filtres et je me dis, OK, je réfléchis à mon persona. Et là, j'essaie de me faire différentes hypothèses. Tu vois, par exemple, si je veux bosser avec un dirigeant, je vais me dire, bah, tiens, il peut être dirigeant. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité en particulier? Est-ce qu'il est dirigeant depuis X temps? Parce que ça peut être pertinent pour moi. Quelqu'un, par exemple, qui est dirigeant depuis 10 ans, je ne vais pas le mettre en priorité parce que je me dis, arriver chez lui, lui dire, attention, bonjour monsieur, il y a ça comme outil que vous devez changer parce qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Je vais passer plus de temps à essayer de le convaincre plutôt que d'arriver auprès d'un dirigeant qui vient de démarrer ou qui a peut-être 1 an, 2 ans de boîte et qui va fatalement être plus en alerte, tu vois, parce qu'il n'a pas encore 25 salariés, enfin, dans la plupart des cas, il n'a pas encore 25 salariés. Donc, ça, pareil, c'est un critère, tu vois. Je vais regarder les petites équipes parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de flexibilité et de préférence en B2B parce que je sais que là, je vais leur apporter une valeur de fou. Et une fois que j'ai fait tous ces critères-là, là, j'ai mon persona. Mais c'est un personnage que je peux tout de suite, genre là, je finis de le faire, j'ai juste coché des cases, j'ai fait mes filtres, et là, tout de suite, j'utilise du Wallaxy, du Phantom Buster, et bam, je les récupère. Et après, je peux démarrer. Et c'est là où je vais commencer à vraiment réfléchir, mais mon persona, je ne le fais plus comme je le faisais avant, où je me posais sur un tableau blanc, je faisais alors, voilà, il fait ça,
etc.
Là, je me dis, je vais avoir cette information-là, mais surtout, comment je le trouve ? Parce que la vraie problématique du persona, surtout, c'est comment on le trouve après. Et c'est là où je me dis, si tu fais un persona scrappable, tu le trouves tout de suite quand tu as fini. Et là, tu peux commencer à enquiller sur le reste, sur le message, sur l'approche, la strat. Et c'est là où ça devient intéressant, tu vois.
Ok. Du coup, très clair pour cette partie-là, sur la partie ciblage, tu pars, en tout cas, des canaux où tu pourrais trouver les personnes. Ouais. Et après, pour tout simplement extraire le nommé. Tu as donné l'exemple d'outils. Bon, peut-être que ce podcast, il sera encore là dans 1 an, 2 ans. Donc, il y aura peut-être de nouveaux outils. Mais ouais. Du coup, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir avoir des outils qui permettent de scraper rapidement la data. Et ça, il y en a pléthore. Tout en reste deux, mais voilà.
Franchement, il y en a.
Find Email, aujourd'hui, il y a Eva Boot.
Apollo, Eva Boot. Enfin, tu en as 1 million. Et encore, je ne te parle même pas des outils US.
Exactement. Du coup, sur les parties ciblage, tu as fini la partie ciblage. Là, maintenant, tu vas sur la partie prospection, faire tes messages. Alors déjà, même avant peut-être la prospection, est-ce que tu as mis en place de l'automatisation pour la construction de tes messages ou c'est justement l'endroit où tu vas être vraiment sur du personnalisé et du manuel?
Alors, c'est là où je vais chercher vraiment à personnaliser. En fait, si tu veux, bon… On a tous ChatGPT, je pense. Donc, forcément, ça nous fait gagner du temps. Mais en vrai, c'est surtout de se dire, à ce moment-là, je me pose la question simple. Je me dis, si mon prospect, je lui parle, et si un jour, il me croise dans la rue, est-ce qu'il voit la même personne ? Tu vois ? Est-ce que le message est le même ? Parce qu'en vrai, tu vois, on a tous, à mon avis, on a tous fait ça une fois, c'est de se dire, ouais, il y a mon image LinkedIn et il y a moi. Mais en fait, aujourd'hui, avec le personal branding notamment, tu es obligé que ça soit pareil. Parce que c'est ce que je dis, moi, à mon staff et aux gens en général et à mes clients. Je leur dis, mais tu vois, la photo que tu as mis qui est… Enfin, pas toi, mais j'ai un de mes clients, c'était ça. C'est la photo qu'il avait mis, qui le représentait lui il y a 5-10 ans. Et entre-temps, il y a des kilos, il y a des cheveux blancs, il y a plein de choses. Et je me dis, tu peux… En fait, c'est partir sur un mensonge et ce n'est pas bon. Parce qu'au final, comme tout à l'heure, tu parlais de relations, il faut que tu sois cohérent de A à Z. Donc, ça veut dire que, ouais, il faut accepter que tu es changé, mais il faut que les gens puissent te reconnaître dans la rue, puissent t'aborder. Et quand tu leur parles, que ce soit cohérent, tu vois. Moi, tu me croises. Généralement, je suis en Jordan, tu vas me croiser dans un événement, je suis en Joe's, je ne suis pas en costard cravate parce que ce n'est pas moi. Et il faut une cohérence. Et c'est là, en fait, où je vais commencer à construire mon message pour que ce soit cohérent et surtout, je vais aller chercher de la personnalisation. C'est pour moi la clé numéro une, c'est vraiment le côté personnalisé. Parce que, encore une fois, envoyer un message à 1000 personnes, on est capable de le faire. Mais tu vois, moi, quand je commence à faire mes séquences et que je vois mon fichier CSV, je commence à me dire « bon, maintenant, on y va ». C'est, je me pose, je vais aller sur chacun des profils LinkedIn, je vais regarder les infos. Alors après, tu as des outils qui commencent à apparaître, qui te permettent de créer des icebreakers. C'est assez fou d'ailleurs, mais ça commence à arriver. Mais par contre, je vais quand même aller chercher un élément, pas forcément un élément ultra pro, tu vois. Moi, j'ai déjà fait des icebreakers où je parlais des nouveaux t-shirts de leur boîte. Mais tout ça fait que la personne, il faut qu'elle sente que le message que tu lui envoies, c'est un message que tu as fait pour elle uniquement.
Je suis d'accord.
Tu vois, quand je te parle des nouveaux t-shirts de ta boîte parce que j'ai vu un post il y a une semaine sur le sujet, tu ne peux pas te dire que je l'ai inventé. Tu ne peux pas te dire que je l'ai envoyé à 25 personnes. Tu vois.
Ouais.
Et c'est avec ça, tout en essayant d'avoir un style détendu parce que c'est comme ça que je suis, bah c'est ce qui fait que les gens après te répondent. Tu vois. Ils te répondent, ils acceptent déjà les invitations. Et après, tu as ce côté preuve sociale où il faut que ton profil LinkedIn soit en adéquation aussi. Tu vois, tu as ce setup-là. Tu vois, je fais toujours le parallèle avec le resto. Je crois que je te l'avais fait la dernière fois quand on s'est parlé. Quand je vais prospecter sur LinkedIn, les gens, le premier réflexe, bon, ils ne vont pas tout de suite accepter s'ils ne me connaissent pas. Ils vont aller regarder mon profil. Et s'ils vont sur ton profil, ils voient que tu n'as pas de bannière. Ton titre, il est claqué. Ils voient que ton résumé, il n'y a rien. Tu n'as pas de contenu à la une qu'on peut voir rapidement. Bah, déjà, tu réduis tes chances d'avoir des gens qui vont accepter, tu vois. Donc, il faut déjà que tout ça soit fait, que ce soit cohérent. Comme ça, les gens, ils vont aller voir ton profil, ils vont faire « Ah ouais, sympa !» et ils vont accepter. Et là, tu vas provoquer l'échange.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, là, déjà, c'est très cool de dire, en fait, voilà, cette partie-là, aujourd'hui, sur la partie message, évidemment, tu peux peut-être t'aider de ChatGPT, en tout cas, pour avoir une petite idée, une accroche un peu sympa, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste quelque chose qui vient de toi et avec de la recherche. Par contre, ce que j'aime bien quand tu dis sur la partie, par exemple, LinkedIn, c'est on va passer à la phase prospection. C'est-à-dire que tu as plein d'outils qui te permettent, en fait, de visiter un profil, de demander, en fait, de faire une demande d'ajout. Et donc, même si c'est facilité, tu vois, par exemple, j'avais une personne qui disait, ouais, mais est-ce que tu peux mettre ça en place? Oui, mais si tu n'as pas mis en place un super profil LinkedIn, oui, tu peux avoir un outil qui va visiter plein de profils, qui va les demander automatiquement en ajout, mais tu n'auras pas forcément en fait, des réponses de fou si, justement, ce que tu es en train de dire, tu n'as pas pensé à créer un profil LinkedIn optimisé. Du coup, sur la prospection, bah, ok, tu fais tes messages. Sur la prospection aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets à... Comment tu agrémentes en fait, un peu ton process pour le faciliter et automatiser?
Une fois que les messages sont faits, après, tu vas utiliser les outils et là, ça devient plus simple, tu vois. Mais il y a un gros, j'insiste quand même parce qu'il y a un gros taf sur la partie du fichier CSV avant, tu vois. Parce que les gens pensent que, ouais, ça y est, tu fais ton message, tu le balances. Ouais, mais tu vois, il y a des outils qui te permettent de pouvoir même mettre un icebreaker dans le message pour chaque personne. D'autres ne le permettent pas. Mais il faut après que tu puisses trouver un truc différenciant. Tu vois, par exemple, si je donne l'exemple de ce que je fais avec Wallaxy aujourd'hui, même si ça n'a pas tardé, ils ne permettent pas d'avoir un icebreaker différent pour chaque profil. Donc, ce qui veut dire que je vais peut-être créer un message pour chaque type de secteur ou chaque type d'activité. Mais il faut toujours que je personnalise par rapport à un élément. Tu vois. Et c'est là où tu deviens super pertinent parce que les gens vont aller checker ton profil et le message, même si ce n'est pas adressé à eux en tant que personne sur LinkedIn, c'est adressé à eux en tant que personne travaillant dans un secteur. Donc, ça reste personnalisé. Mais tu dois faire l'effort d'avoir ce genre de choses parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des taux de réponse intéressants. Et après, tu monitors, tu regardes un petit peu comment ça se passe. Moi, je regarde les stats, tu sais, tous les jours. Le matin, tu fais « Alors, on en est où ?»« Ah, ils en sont où ? Ils ont fait quoi ?» etc. Et c'est là où tu peux adapter après. Tu as le côté visite, tu as le côté manuel également. Tu vois, par exemple, je vois qu'il y a un prospect qui a reçu mes messages, mais il ne fait rien. Je peux même aller envoyer un message avec un audio, tu vois. C'est des trucs tout cons, mais l'audio sur LinkedIn, moi, je suis persuadé que c'est le truc le plus sous-coté de la planète.
Parce qu'on a tellement... On a tellement je n'ose pas le faire en B2B.
Eh bien, je te jure que c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, tu réponds à deux problématiques à mon sens. La première, tu ajoutes un côté humain. Tu ne peux pas automatiser l'audio. Tu ne peux pas. Et de deux... c'est vraiment, donc, comme je disais, le côté humain et le côté rapide à consommer. Après, je ne te dis pas de faire un audio de 20 minutes, mais tu fais un audio de 15-20 secondes ou peut-être aller 30 secondes. Bah, la personne, si le ton de la voix il est sympa, si en plus de ça, tu donnes des informations très cool, bah, ça peut permettre à la personne de se dire « Ouais, j'avais pas vu, enfin, même si les gens mentent, mais j'avais pas vu, tiens, ce serait bien qu'on puisse échanger. » Et moi, je suis sûr que c'est le truc le plus sous-coté. Effectivement, en B2B, on n'ose pas. Mais en fait, dans notre vie perso, on utilise tous des audios.
Tous. Et en plus, la génération qui arrive, des jeunes, faut pas sous-estimer le fait qu'en fait, ils tapent plus de texte. Ils tapent plus de texte. Ils font même quand ils font une requête, ils font une requête à l'oral, à l'audio, sur des outils, etc. Donc, le temps peut-être que cette génération arrive aussi également à des postes, etc., elle sera habituée. Mais c'est vrai que sur l'ancienne génération, et moi, généralement, je suis sur des C-level, j'ose pas. Mais là où tu as raison, c'est que ça a à peu près les mêmes bénéfices globalement qu'une vidéo. Où en fait, les gens, ils ont l'impression de ne pas être juste une personne qui m'écrit un texte, je ne vois pas. J'ai sa vibe, j'ai sa voix, je vois si j'ai envie de discuter avec elle, si ça risque d'être agréable cet échange. Donc, là où effectivement, tu as raison. Donc, du coup, ouais. Donc, toi, en fait, effectivement, ce que tu dis, c'est que sur cette partie ouais, il faut travailler sur son CSV. Je pense que tu as raison de le noter. Tout à l'heure, tu disais que parfois, il y a des erreurs qui peuvent être faites. Il faut, alors, il y a des outils en fait, qui permettent de cleaner ton scrap. Je pense que les gens ne le font pas assez. Mais ça, je pense que c'est un truc qu'il faut dire, c'est que oui, ça fait gagner du temps fou. En deux secondes, tu peux scraper des centaines et des centaines de contacts. Par contre, il y a un truc sur lequel tu ne pourras jamais réduire, c'est de regarder ligne par ligne. Moi, je continue à regarder. Alors, je ne sais pas si tu vas me dire, non, mais ça, voilà. Mais moi, je continue à regarder ligne par ligne, notamment parce que je n'ai pas envie qu'il y ait qu'il y ait une coquille, qu'il y ait un truc qui se fait. Tu vois, parfois, tu as des noms, des prénoms.
Avec des emojis.
À deux ou à trois, avec des tirets, etc. Si le tiret est trop collé, si le tiret il a sauté, tu vois, pas mal de choses qui font que quand tu vas envoyer, c'est le truc où en fait tu perds la crédibilité. Et moi, par exemple, le plus, je suis surtout sur des cibles. Je pense que quand tu es sur du transactionnel à fond, c'est moins grave. Mais quand effectivement, tu as en fait un marché qui est resserré, tu n'as pas mis l'opportunité. Donc, si tu rates en fait si tu rates quelque chose et que c'est un peu foutu pendant… faut t'attendre que la personne t'ait oublié pendant 6 mois.
Ouais. Non, mais tu as grave raison. En plus, j'avais suivi un de tes épisodes de podcast où tu expliquais que tu recevais des messages où dedans, quand le prénom est repris avec l'emoji, je me dis, mais non, en fait, tu ne peux pas faire ça. Enfin, c'est là où tu sais que… Alors, est-ce qu'on a la flemme ou est-ce qu'on doit le faire, tu vois? On peut avoir la flemme, mais après, il faut assumer les conséquences. Effectivement, quand je reçois un message où je vois les emojis de mon truc et je me dis, ouais, mais non, enfin, tu ne peux pas dire bonjour, Ouri, tu vois les deux trucs fast-forward avec le robot. Allez, c'est pas…
C'est ça. Et du coup, tu dis la chose vraie, c'est que, en fait, en gros, l'automatisation, c'est fait pour réduire les tâches à faible valeur ajoutée. Et en fait, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on déroule un peu le cycle de vente. Et en fait, on voit que le fait d'écrire ces messages, ce n'est pas une tâche à faible valeur ajoutée, donc tu n'as pas à l'automatiser. Et le fait d'aller checker ta data que tu es parti scraper, ce n'est pas une tâche à faible valeur ajoutée parce que le résultat derrière de faire en sorte que le mec, il voit que son entreprise est bien écrite, que son icebreaker, il n'y a pas de faute, j'en sais rien, tu vois, par contre, parce que tu n'es pas parti prendre un icebreaker et le mettre à chaque fois et faire un copier-coller avec une faute pour 10 000 messages, que son prénom et son nom, il n'est pas écorché, ça a de la valeur. Dans la relation aujourd'hui, pour lancer une conversation, ça a de la valeur. On le voit tous, tu vois. Genre, si moi, demain, tu m'appelles, je sais pas, bon, moi, les gens se gourrent moins sur mon prénom et mon nom, mais je sais qu'il y a des noms parfois où les gens peuvent se tromper. Ça t'énerve, en fait. Ça t'énerve. Déjà, la relation, elle est en mode genre, ok.
Mais tu vois, tu as archi raison. En fait, tu vois, c'est réduire les tables à faible valeur ajoutée, les tâches à faible valeur ajoutée, et justement, le fait de checker, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de replacer le cerveau au bon endroit. C'est là qu'on doit être, c'est de se dire, ouais, moi, je préfère aller prospecter peut-être 50 ou 100 personnes par mois peut-être, mais je sais que ces 50 ou ces 100, personne ne pourra me dire, j'ai reçu deux fois le même message ou j'ai reçu un message généralisé. Tu vois, parfois même, j'abuse même dans mes messages, dans le 1, le 2, le 3, j'ai des icebreakers pour les 3. C'est-à-dire que chaque prospect va recevoir 3 messages complètement différents des autres. Et c'est là où tu apportes une vraie valeur parce que, ouais, tu dois checker si les données sont bonnes. Parce que tu sais que toi, si tu recevais ce message-là, flemme. Enfin, tu vois le truc, on a mis, Ouri, je l'ai à toutes les sauces. Henri, Yuri, je l'ai à toutes les sauces. Et je me dis, ouais, enfin, juste, t'as pas regardé, tu vois, t'as pas regardé. Ou alors, il y a mon emoji à côté, t'as pas checké, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant. Et pareil, ce qui arrive souvent, c'est surtout sur le poste de fondateur. Tu sais, parce que généralement, t'as des postes à rallonge et quand les gens prennent la variable poste, tu retrouves un truc qui n'est pas cohérent. CEO chez, et ils reprennent le titre, je vous aide, mais non, en fait, tu ne peux pas faire ça.
Ouais, mais en fait, en plus, ça n'arrive pas. C'est pas rare que ça arrive. Donc, c'est important aussi également, déjà pour les gens de checker, mais aussi également, je pense plus au sales manager ou head of sales parce que parfois, tu vas y mettre en place les outils. Mais ils ne gèrent pas forcément le travail au quotidien de leurs sales. Et en fait, il faut qu'ils checkent vraiment ce genre de partie. Du coup, là, en fait, on a parlé de cette partie. Voilà, OK, on clean la data, on a écrit nos messages, on balance. Aujourd'hui, sur cette partie-là, qu'est-ce que toi, tu recommandes sur la distribution des messages, mais que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, etc. En termes d'automatisation, à quoi il faut penser pour choisir son outil, en fait?
Il faut penser déjà au volume que tu veux encaisser. C'est con, hein, je commence par la fin, mais je me dis toujours quand je fais des séquences, je me dis, imagine, je fais une séquence de 1000, imagine les 1000 te répondent. Est-ce que tu peux gérer 1000 ou pas? Non. Non. Donc non. Et parce qu'au final, si tu fais 100, mais 100 bien fait, ça vaut mieux que 1000 mal fait. Tu vois. Et après, tu vas dire, bah, par rapport aux outils, est-ce que ma cible est plutôt du LinkedIn? Donc, je vais utiliser du Wallaxy, du Lemlist qui fait du LinkedIn aussi. J'ai vu que tu avais eu quelqu'un qui a créé Breakcold. Je trouve ça incroyable.
Ouais.
Je trouve ça incroyable. Mais bon, c'est la parenthèse. Mais tu vois, c'est de te dire déjà où ils sont, quel est leur canal de distribution préféré. Maintenant, tu peux pas le deviner. Tu vois, sur SalesNav, tu as un filtre qui est génial. Quand tu vas aller checker, tu peux regarder s'ils ont publié un truc dans les 90 derniers jours. Ça, c'est, pour moi, c'est une valeur ultra intéressante parce que si tu récupères des gens qui ont publié dans les 90 derniers jours, tu as de fortes chances quand même qu'ils soient souvent sur LinkedIn. Tu vois. Et dans ces cas-là, tu peux te faire une liste avec les personnes où tu sais qu'ils sont plus souvent sur LinkedIn et ceux-là, tu vas les pousser uniquement sur un outil LinkedIn, genre Wallaxy. Ou alors, tu vas dire, bah, je prends plus, peut-être ceux qui n'ont rien publié ces derniers temps, mais eux, je vais peut-être essayer de scraper les mails et de leur envoyer par mail. Tu vois. Après, maintenant, tu as les outils, bah, j'en cite deux que j'utilise souvent, tu as Wallaxy et Lemlist. Tu peux te permettre de dire, bah, les deux font les croisés. Ils font à la fois du LinkedIn et du mail. Ou alors, tu peux démarrer par mail et LinkedIn. Tu vois. Comme ça, si tu vois que tu n'as pas de réponse, ça continue à tourner et toi, tu vas juste checker pour voir de temps en temps s'il y a une réponse, s'il y a une interaction, etc.
Ok, très cool. Toi, aujourd'hui, sur cette partie donc, distribution, justement, est-ce que tu as déjà testé ou en fait, tu es principalement généralement sur LinkedIn, etc. Est-ce que tu as déjà testé d'autres solutions, par exemple sur Instagram, Twitter, ou bien voilà.
Alors, Insta, Twitter, non, parce que c'est pas ma cible, elle n'est pas là-bas. Et puis, franchement, l'automatisation sur Instagram, ils n'aiment pas ça.
Ah, mais en fait, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai une cible sur laquelle je fais des messages sur Instagram et ça prend bien. Et puis, j'ai des clients dernièrement où c'est le cas. Et du coup, je me posais la question, effectivement, genre sur Insta, est-ce que c'était possible d'automatiser? Et en fait, je me disais, Twitter, bah, du coup, j'ai découvert hier... je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais ça ne serait tarder un outil qui permet de scraper Scrappy Bird, par exemple. Mais par exemple, tu as sur la partie Instagram, je me disais, ouais, peut-être qu'en fait, il y a moyen qu'il te fasse sauter ton compte. Quoi.
Franchement, c'est chaud. Sur les différentes formations que j'ai pu animer, quand on faisait des. Parce que je fais les exemples avec Phantom Buster, Insta et tout, rien que de scraper sur Instagram les profils, tu peux être bloqué. Enfin, ça, ouais, pour moi, quand on me dit, ouais, ma cible est sur Instagram. Déjà, je suis pas bien. Je dis, ouais, mais non, en fait, non, c'est compliqué. Okay. Parce qu'en fait, tu as ce truc où, après, je crois qu'il y a des outils, genre, j'ai entendu parler de ManyChat qui te permet de pouvoir automatiser un peu sur Insta, mais pareil, tu peux y aller doucement. Et c'est là où c'est pas super pertinent, tu vois. Par exemple, si tu veux vraiment gagner du temps, Instagram, c'est pas fait pour. Instagram et Facebook, hein, je les mets dans le même lot, c'est pas fait pour. Maintenant, quand tu es en B2B, de toute façon, LinkedIn, et même quand tu es en B2C, enfin, ça, c'est un tip que je donne aux gens. Mais tu vois, quand tu es en B2C et que ta cible, ce sont des cadres, etc., etc., mais pas sur LinkedIn, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, d'accord. Mais quand tu as fini de bosser, tu vas acheter tes tomates à Carrefour ou à Lidl ou à Aldi.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais par contre, en fait, le truc, ça... sur le B2B, je suis d'accord. LinkedIn reste, en fait. Mais par exemple, tu as des secteurs, et moi, j'en ai un pour lequel je travaille en ce moment, où en fait, la cible, elle n'est pas active sur LinkedIn. Donc, ouais. En fait, l'information, je peux la scraper, je peux savoir qui c'est. Donc, effectivement, tu vois, je vais plutôt passer par l'email, mais par exemple, je ne vais pas forcément faire des actions sur LinkedIn, etc. OK. Du coup, toi, là, donc, c'est plutôt, en fait, sur cette partie prospection, tu parles pas mal de... Voilà, il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce que tu mets en place pour attaquer telle ou telle personne sur tel ou tel canal. C'est intéressant ce que tu dis, de dire faut faire attention à ce que tu peux réceptionner. Et pareil, comment tu fais pour savoir en fait que ton process que tu as mis en place d'automatisation, il marche?
J'AB teste, je regarde les chiffres. En vrai, j'AB teste tellement de trucs, à la fois le message, à la fois emoji, pas emoji, le ton. Et après, je regarde les stats. C'est vraiment les métriques, c'est vraiment les stats. Et ce n'est pas les vanity metrics. Le taux d'ouverture, c'est cool, mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Parce qu'au final, c'est logique. Si la personne, si t'as beau faire le plus beau message de la planète, le plus beau mail de la planète, s'il n'est pas ouvert, ça ne sert à rien. Donc, ouais. Tu dois te concentrer sur l'objet pour être sûr ou presque que ça ouvre. Tu vois, moi, généralement, quand je fais des mails, que ce soit pour moi ou pour mes clients, on a des taux d'ouverture entre 80 et je crois que le record dans la boîte, c'est 98%. Wow. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de se dire, il faut qu'il ouvre. Parce que le cadeau, il est à l'intérieur. Donc, il faut qu'il ouvre. Et c'est après, on se dit, est-ce qu'on a un taux de réponse intéressant? Est-ce que derrière, en fait, les gens répondent ce dont on a besoin? Est-ce qu'on peut les contacter? Tu vois, c'est créer la relation avec les messages. Par exemple, un truc tout con que moi, je ne fais pas et que beaucoup font et je ne comprends pas, c'est dès le premier message, tu envoies ton lien Calendly ou autre. Enfin, doucement, on ne se connaît pas. Tu vois, il faut qu'on crée une relation. Tu ne vas pas me filer un rencard tout de suite alors qu'on ne se connaît pas. Tu vois. À la rigueur, pousse-moi du contenu, pousse-moi une vidéo, pousse-moi ce que tu veux, mais doucement, enfin, tu vois, tu ne peux pas envoyer un calendrier tout de suite. Et après, c'est de dire, bah, c'est après, tu te fais des règles. Admettons, tu vois, une personne qui a ouvert mon premier message et qui n'a pas répondu, j'attends toujours qu'il ait le deuxième. Tu vois, le deuxième, voire le troisième dans certains cas, en fonction de ce que j'ai mis dans les messages. Et après, c'est là où, si tu as déjà les numéros de téléphone, tu peux te faire une règle en disant, bah, quelqu'un qui a ouvert deux fois, tu sais, tu te fais un scoring. Deux fois, je peux appeler. Deux fois et pas de réponse, bah, tiens, je vais appeler pour relancer. Parce qu'en fait, là où tu closes le plus, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, c'est dans les relances. Le secret, il est dans les relances, tu vois. Et c'est pour ça que je disais au début, ça sert à rien d'avoir une grosse liste parce que tu pourras pas les relancer correctement, tu pourras pas les suivre correctement et après, ça sera perdu. Et là où tu dois bosser, c'est vraiment ce truc en disant, je dois m'organiser dans la prospection. C'est à quel moment ça déclenche un appel, tu vois. J'ai pas de retour au bout de 2-3 messages, ok, j'appelle au troisième. Il a ouvert mes deux premiers. Ok, je peux appeler le deuxième parce que je me dis, il doit me connaître quand même. Il a ouvert les deux premiers. Après, il faut quand même faire gaffe. Je le dis quand tu fais ça sur les grands comptes, comme ils ont des mail bloqueurs, etc., parfois, ça t'envoie le mauvais signal. Tu as l'impression qu'il l'a ouvert, sauf qu'il a jamais rien. Il n'a jamais vu ton mail. Et ça, il faut le préciser parce que j'ai trop de personnes qui me disent, ouais, mais ils ouvrent toutes les personnes ouvrent les mails. Et quand je dis, ouais, mais c'est quoi ta cible? Ils me disent, les grands comptes, ils ouvrent tous, mais ils ne répondent pas. Attention.
Alors, justement. Très, très important. Alors, moi, il y a deux choses là que tu as dit que j'ai envie de rebondir. La partie A/B testing, donc juste pour les. Parce qu'il y a parfois des tout nouveaux. Ouais. C'est le fait de faire des tests sur des messages. Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste que tu m'en dises un peu plus sur la partie A/B testing, notamment sur l'objet. Et je pense que tu as raison, il faut que tes mails soient ouverts. Moi, j'ai toujours du mal. On a toujours. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, finalement, qui A/B testent. Parce que. Tu vas t'accrocher en fait à ta première croyance de ton message que tu as créé et tu vas avoir peur en fait de perdre parce que, enfin tu vois, en fait, la peur de perdre, j'ai fait un post là-dessus, mais en gros, c'est de dire en fait, ok, comment tu t'organises en fait pour te dire, ok, et tu te forces à A/B tester parce que je sais qu'il y a, sauf des mecs qui sont dans le growth, etc., qui, c'est leur ADN en fait d'A/B tester. Ouais. Les sales, ils vont avoir tendance à se dire, ok, non, mais je vais pas prendre de risque, je vais mettre le même message, et puis je vais voir, et puis de temps en temps, je vais changer, et puis si je vois qu'il n'y a pas de résultat, bah, je reviens à mon truc d'avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ce que j'ai pu voir, et c'est un peu comme ça que je réfléchis en tant que pure sales. Donc, du coup, comment tu fais, toi, en fait, pour la BTC?
Moi, il y a un truc que je me dis toujours, j'ai rien à perdre. Je peux avoir une bonne idée, mais tu sais, au moment où tu rédiges, aucune stat qui te dit que la personne en face, elle va l'ouvrir. Donc, tu ne peux pas savoir. Donc, autant tester deux types parce que tu as toujours, quand tu fais ton brainstorming avec toi-même ou avec ChatGPT ou avec ton staff ou autre, tu as toujours différentes idées. Donc, en fait, mieux vaut tester les idées qui te paraissent les plus cohérentes pour te dire au cas où, tu auras de quoi rebondir. Parce qu'en fait, tu vois, si tu fais un seul mail, un seul objet, un seul type, bah, si ça ne fonctionne pas, tu dois repartir de zéro. Tu vois. Alors que là, si tu arrives avec deux options, tu testes les deux et après, c'est vraiment de te dire bah, qui a gagné entre les deux. Tu testes le deuxième, tu vois que ça fonctionne mieux, bah, le premier, tu l'abandonnes. Et à un moment, tu vas avoir une autre idée, tu dis, bah, tiens, je vais la challenger avec. C'est comme pour la boxe ou les sports de combat. Tu as gagné, bah, tu prends le challenger et le challenger gagne, le challenger va rencontrer quelqu'un d'autre. Et jusqu'à ce que tu trouves en fait la formule qui marche bien. Et après, c'est toujours bien de tester différents trucs parce que tu ne sais jamais. Parfois, il y a des choses, moi, je sais, je t'ai dit, le record dans ma boîte, c'est quelqu'un de mon staff. Qui a mis en objet prospection. Moi, j'ai regardé ça, mes yeux, ils ont tourné. Je me suis dit, mais c'est un bug ou tu sais, t'as pas fait exprès. La personne, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, non, je teste. Je dis, ok. Et j'attends, mais tu sais, tu dis, ok, mais tu regardes les stats tous les jours comme ça, t'attends, tu vois. J'ai vu 98% d'ouverture. Je dis, teste ce que tu veux. Je dis, c'est pour ça, en fait, moi, d'instinct, je l'aurais jamais fait. Mais ça a fonctionné parce que, en fait, les gens, ils ont ouvert et ils répondent. Parce que déjà, tu n'es pas surpris. Tu vois prospection, tu sais à quoi t'attendre. Et une fois dans le message, on t'explique clairement que c'est de la prospection. Soit tu es intéressé, soit tu ne l'es pas. Et les gens répondaient. Au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Tu vois, parce que y a beaucoup de, je vois beaucoup de trucs passer. On me dit, ouais, faut mettre des mails urgents, machin. Ouais, mais en fait, tu vas créer une sensation négative. Et pour démarrer la relation, c'est claqué.
Et moi, je trouve ça, mais tu vois, même sur LinkedIn, hein, je trouve ça insupportable. Quand je reçois un message, par exemple, de quelqu'un qui essaie de me dire « Salut, ça va? Tu vas bien? Ah, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, etc. » Et puis, parfois, le nouvel mode, c'est « Il fait rien pendant une semaine. » Donc, toi, tu réponds genre en mode gentil, tu vois ah, « Ok, cool, merci, etc. » Et une semaine après, son gros pavé, en fait, de novembre, en fait, je te dis clairement, je le bloque. Je bloque la personne. C'est-à-dire que, généralement, je ne bloque pas les gens qui me prospectent parce que je suis moi-même sales. Je ne le fais pas. Mais ça, en fait, c'est que je me dis, en fait, t'es pas le genre de personne qui va me proposer une expérience de vente que j'aime bien, en fait. Enfin, voilà, j'aime bien, ça me dit, en fait, ok, t'es sales, assume que t'es sales, et en fait, aborde-moi de manière cool, et moi, laisse-moi l'opportunité de dire oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, genre, et c'est pas grave. Du coup, très cool. Et toi, en fait, par exemple, justement, sur la partie A/B testing, tu fais du 50-50, tu testes parfois trois choses à la fois. C'est quel reco tu ferais, en fait ?
Alors, parce que je suis un peu flemmard, mais quand tu automatises, tu es flemmard. J'essaie de prendre des chiffres ultra ronds, ultra simples. Je prends 100 et après, l'outil va me tester, mais généralement, quand tu prends 100, il va faire 50-50. D'accord. Au moins, après, tu as tes stats et après, tu peux balancer. Parce que si tu dois rentrer dans les calculs, même s'il y a des pourcentages et tout, si tu dois rentrer dans les calculs des machins, oh, flemme. Donc, d'accord, tu prends des chiffres ronds. Au moins, ça te permet de faire rapidement le distinguo. Et derrière, tu gardes ce qui fonctionne, mais tu le gardes un petit moment, tu vois, quand même pour voir si ça prend sur… Peut-être ça peut prendre sur un mois, sur deux mois. Et quand tu vois que ça commence à retomber, bah là, tu peux te commencer à te poser des questions, tu vois. Est-ce que c'est le message ou est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est plus tendance d'avoir ce genre de message ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais c'est là où tu dois le challenger. Et l'A/B testing, pour moi, c'est super important parce que tu peux pas avoir la bonne méthode dès le premier coup. C'est pas possible. Tu vois, carrément, tu peux même mettre de la vidéo dans tes messages, c'est ok si tu veux tester le modèle et voir si ça fonctionne. Mais pour voir si ça fonctionne, faut le tester. Tu vois, tu peux avoir l'idée. Moi, j'aime pas, moi je suis très test and learn. Tu vois, c'est j'ai mon idée, bah vas-y, on teste, okay. On voit. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Si ça marche, bah tant mieux. Si ça marche pas, je saurai que ça marche pas. Je vais essayer de voir pourquoi ça marche pas et peut-être je vais modifier quelques trucs, mais au moins ça te permet d'avoir une idée claire sur ce que tu peux faire.
Ok. Très clair. Et puis, effectivement, tu as les outils en fait, qui permettent facilement aujourd'hui de le faire. Donc, c'est incroyable. Sur cette partie-là, donc prospection, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Tu fais du cold call ou pas? Tu automatises des choses sur le cold call ou c'est plus difficile de automatiser? Je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des nouveaux outils qui viennent. Alors, j'en ai parlé avec des spécialistes, notamment une nana qui a une boîte qui s'appelle Book & Factory qui fait ça, du cold call. Et du coup, en fait, je vais poser la question. Je fais, tu crois aux outils en fait qui permettent de prospecter à ta place? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ta voix. En fait, c'est tu fais ton message, ça prend le numéro, ça appelle ton prospect et ça vend pour toi. Enfin, ça vend pas parce qu'on vend pas pendant un cold call, mais en tout cas, ça suscite l'intérêt pour toi et pour booker un rendez-vous. Autrement, j'ai eu une autre démo, tu vois, par exemple, d'un outil qui permettait, en fait, bah, toi, tu es en train de travailler. Là, par exemple, on travaille, en fait, sur, je fais de la prospection, par exemple. Et du coup, j'ai un outil qui appelle pour moi ma liste de boîtes. Et quand il y a quelqu'un qui décroche, du coup, ça et je peux prendre l'appel et directement. Alors, il y a du pour et du contre, je trouve ça cool parce que, en fait, tu vois, genre, tu perds trop de temps à passer, prendre mon téléphone, passer du temps dessus, être sur ma liste de 50 personnes. Sur les 50 personnes, je vais avoir 30 personnes sur lesquelles je vais tomber sur du répondeur. Donc, il y a des fois, je vais laisser un message, mais des fois, je ne vais pas en laisser. Et du coup, je trouvais ça pas mal. Bon, après, j'ai eu des trucs qui me disent, ouais, mais il y a un temps de latence qui fait que ça paraît pas naturel. Donc, je voulais savoir, toi, est-ce que cette partie-là, tu l'automatiserais ou pas?
Franchement, je suis pas chaud pour l'automatiser. Alors, ça me ferait grave délirer d'automatiser ça. Tu vois, moi, je suis le premier à tester des outils qui te permettent de faire des formations à distance sans que ça soit ta tête. Tu tapes un texte, ça te fait la vidéo et tout. Mais sur la partie call call, comme tu dis, en fait, ça sera jamais parfait. Tu vois, typiquement, ça appelle à ta place. Ouais, mais tu maîtrises le discours. Est-ce que ça répond à ta place? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être un peu délicates et que tu gères pas. Et comme on disait dans un début de relation, c'est moyen, tu vois. Après, on pourrait toujours se dire, ouais, tu crées un avatar, etc. Ok, mais je pense que c'est dommage parce que c'est la partie en fait la plus intéressante en réalité quand tu peux avoir la personne au téléphone, même si au départ elle a peut-être pas envie, mais tu vois, enfin quand la personne décroche, c'est un peu un challenge aussi de se dire bah tiens, elle a décroché, j'ai peut-être 30 secondes pour donner envie de gagner 30 secondes et après 30 secondes encore pour gagner envie, etc., etc., tu vois. Mais mettre ça dans la main des robots, ouais, ce serait flippant quand même. Mais, okay. Mais après, moi j'ai fait le truc où
après, ça se passe. Des vidéos très très stylées, tu vois, genre il y a ça pour le coco, mais après, il y a des petites vidéos que moi j'ai pas mal testées aussi qui permettent en fait de, voilà, d'automatiser de la vidéo, notamment quand tu es plutôt sur de la vente transactionnelle. Donc du coup, voilà, de toute façon, les outils, ils s'améliorent tout le temps, ils sont toujours bluffants. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe sur la partie vente. Toi, aujourd'hui, voilà, prospection sur la vente, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Moi, il y a des trucs, alors je vais voir si tu vas le dire, mais il y a des trucs où j'ai envie de gagner du temps à fond. Mais qu'est-ce que tu automatiserais, toi, sur la partie vraiment closing, à partir du moment où tu as une personne qui t'a dit oui, ok, on se parle, jusqu'au moment où tu la signes?
Bah, franchement, à partir de ce moment-là, tu es sur la partie contractuelle, tu vois. La partie contractuelle, il faut que ça soit… Là, tu peux automatiser de ouf parce que si tu as ton CRM qui est déjà bien rempli, moi, ce que je fais, alors, soit j'utilise Airtable au départ ou HubSpot, mais Airtable, en fait, j'aime bien parce que ça me permet de pouvoir juste mettre des trucs, des cases à cocher. Et ça, je suis un grand cocheur de cases. Et en fait, tu vois, par exemple, tu as ton CRM que tu t'es créé sur Airtable, tu sais que dès que dans ta case, à closer, tu coches et ça va envoyer un mail genre au moment où tu raccroches, tu vois. Ou même pendant que tu es en train de parler à la personne, tu lui envoies le mail de suite en disant bah, « Tiens, trop cool qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse bosser. » Bam, le contrat est créé parce que tu as déjà les coordonnées. Et ça te permet en fait de réduire ce temps de réflexion du prospect. Alors, et ça te permet en fait de battre le fer quand il est encore chaud. Tu vois. Là, il est chaud, il t'a dit oui, il est grave content. Et tu as un moment où généralement où tu vas perdre ta vente parce que tu mets du temps à envoyer ton devis ou ton contrat, etc. Alors que là… T'es au téléphone avec, tu dis bah, tu sais quoi, je te l'envoie dans 5 minutes. Tu coches ta case, tu sais que le mail il part maintenant. Avant que tu raccroches, le mail est déjà dans sa boîte mail, le contrat il est déjà prêt à être signé, le devis il est là, le RIB est envoyé, etc., etc. Et ça, ça fait la diff. Parce qu'en fait, tu peux faire du volume et tu vas perdre en qualité si justement tu n'es pas réactif sur ces derniers points. Parce qu'au final, la partie la plus difficile, tu as fait 90%. La personne t'a dit oui, il ne faut pas que tu te foires sur les 10% restants. Et c'est là où tu ne peux pas perdre du temps à envoyer un devis, une facture. Moi, je fais même des démos à des prospects pour qu'ils puissent se projeter. Parce qu'après, sur l'automatisation, parfois, tu as des trucs complexes. Donc, je fais des démos pour qu'ils puissent se projeter. Mais je fais une démo avec Loom, ça me prend 5 minutes. Mais ça, ça fait la diff versus… Tu vois, ça, je ne peux pas l'automatiser. Je suis obligé de le personnaliser parce que c'est ce qui va te créer cette relation avec les personnes. C'est pour ça aussi que je recommande de faire peu de volume, mais de bien faire. Tu vois.
Ok. Et oui, la partie rendez-vous, tu ne peux pas l'automatiser, mais c'est tous les trucs entre les rendez-vous. Donc, typiquement, voilà, j'ai mon premier rendez-vous, je raccroche, il y a un email, n'importe quel CRM le fait, évidemment, de dire voilà, soit je déplace le deal à tel endroit ou soit je coche une case. Ça shoot un email que j'ai travaillé, que j'ai bossé. Et voilà. Pareil, tu peux très bien le faire aussi, j'ai des objections. Ok, bah voilà, il y a une objection parce qu'elle revient tout le temps et donc je sais globalement que cette objection-là, il faut que je la résous typiquement et j'envoie, je ne sais pas, un use case automatiquement à telle boîte parce que suite à l'appel, il m'a fait remarquer ça ou ça et je me dis, bah non, vas-y, je vais t'envoyer ça pour augmenter ta confiance. Tu peux avoir, voilà, en fait, toi, c'est vraiment évidemment la partie contractuelle, etc. Ouais. Sur la prise de notes, par contre, moi, c'est le plus dur pour moi. Tu vois, par contre, ouais. Et je pense pour la partie. Pour les équipes de vente, tu vois, la donnée en fait sur le CRM, toutes les équipes de vente perdent énormément de données parce qu'en fait, quand tu es sales, tu es justement focus dans ta discussion, tu es focus sur ta vente, tu vas prendre des infos. Alors, moi, je le dis souvent, mais je suis spécialiste carnet, je commence à changer. J'ai pas acheté le casque qui permet de faire la transcription directement de mes rendez-vous. Toi, sur cette partie-là, Comment tu conseillerais notamment justement les équipes de vente pour faire en sorte que, tu vois, cette information qui glane pendant leur conversation, qui est extrêmement importante, qu'elle puisse rester?
Tu as deux options archi simples. Quand tu es au téléphone classique, tu peux enregistrer ton appel.
Ouais.
Ça te permet après, en fait, tu l'enregistres, ça te fait un audio et l'audio, tu le retranscris et après, tu le mets dans ChatGPT. ChatGPT t'en fait un résumé. Fin de jeu. Tu vois, t'as les infos et après, ce résumé-là, tu le mets dans ton CRM. Après, tu peux toujours aussi essayer d'automatiser parce que c'est automatisable. Mais déjà, c'est un premier truc à faire. Si tu es au téléphone classique, si tu es en visio, tu as des outils qui te permettent d'enregistrer ta visio, de te le retranscrire, et en fait, tu ne perds pas les éléments. En fait, c'est vraiment, comme tu le dis, quand tu es au téléphone avec le prospect ou quand tu es en call avec le prospect, que ça dure une demi-heure, une heure, on n'est pas focus pendant une heure. Ce n'est pas possible, on a un cerveau. Mais par contre, l'outil va te permettre de pouvoir être focus. Tu vois. Là, moi, j'ai regardé récemment une vidéo sur Microsoft, comme ils ont racheté ChatGPT, ils sont en train de sortir un truc qui s'appelle Copilot. Ça va être une dinguerie. C'est-à-dire que tu fais un Teams, Copilot, il est là pendant Teams, il te récupère toute la conversation, il te la retranscrit, il t'en fait un PowerPoint, il t'en fait des il te résume des pain points, il te fait des dingueries. Et ça, en fait, ça va être c'est pour ça que pour moi, l'IA, on en a besoin, ça va nous faciliter la vie. J'imagine un sales qui fait 15 calls par jour avec des prospects, et ben, il peut avoir les résumés de toutes ses notes, facile à digérer, facile à comprendre, et même une analyse pour te dire « Ah bah tiens, tu devrais peut-être lui dire envoyer ça, lui dire ça, lui dire ça. » Et là, aujourd'hui, on n'a pas l'outil qui permet de faire tout ça, mais en faisant différentes petites étapes, comme je t'ai dit là, tu enregistres l'appel, l'audio, tu le mets en speech to text, tu le récupères en français, tu mets dans ChatGPT, tu lui dis « Bah tiens, tu peux m'en faire un résumé en ressortant les pain points, les éléments que je devrais lui donner, et comporte-toi comme un expert en sales. » Bam, ça balance.
Ok, bah ça c'est super cool comme process. Il faudra juste que je trouve le moyen de l'automatiser pour que tu vois, genre ça se passe à chaque fois que j'ai un call et que j'ai pas à penser à le faire. Parce que c'est toujours, quand moi je parle de tâches à faible valeur ajoutée, tu sais, c'est chez les sales, je parle, c'est évidemment tous les gens, hein, mais les sales c'est encore, je trouve, un peu plus important. C'est qu'il y avait des chiffres comme ça qui passaient qui disaient qu'on était entre 40 et 60% des sales qui faisaient pas de vente. Ouais. Parce qu'en fait, ils étaient pris justement sur de l'administratif et ce que tu disais, en fait, ta partie contractuelle. Pour moi, c'est le premier, si on parle de sales stack, donc boîte à outils. Pour moi, c'est un des outils, évidemment, il y a le CRM, mais un des outils, c'est la partie facturation, etc. Ça, ça doit être plié. Alors, justement, les boîtes, elles ne le font pas. Elles ne le font pas parce que c'est le plus dur à setup. C'est pas évident. Il faut que tu fasses appel à des gens pour setup, tu vois. Généralement, pour automatiser les choses et pour pas qu'il y ait des bourdes, parce que c'est pareil. Ouais, t'as un mauvais contrat, tu vois. Il faut que ce soit. Ça, c'est vraiment la partie. Quand tu dis 10%, c'est ton dernier kilomètre. Si tu te foires, ça peut vraiment te faire soit décaler ton cycle de vente, soit ça peut carrément te faire rater une vente. Mais oui, tu vois, genre. C'est pour ça que pour moi, en fait, je pense qu'il y a besoin d'évangéliser. Alors, je trouve qu'on est sur une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'avant, moi, quand j'ai commencé le sales, je pense que c'était facile d'être à la pointe parce que je pense qu'il doit y avoir peut-être 10, 20 outils dans le sales. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 000. Je crois que la dernière fois, j'ai regardé une espèce d'arborescence tous les jours. C'est comme le recrutement. Avant, c'était le recrutement. Maintenant, il y a un outil tous les jours qui sort sur du sales. Mais par contre… donc ça, en fait, les boîtes, elles sont, ou même les sales sont OK de se dire, ouais, il faut que j'utilise des outils. Mais par contre, c'est on l'a dit au début, c'est difficile d'identifier là où tu dois le mettre par rapport, parce qu'en fait, ça change en fonction de ton industrie et aussi également de ce que tu fais en termes de sales. Et aussi, tu vois, quelles tâches vraiment, parce que parfois, il y a des micro-tâches, tu vois. Par exemple, là, tu m'as donné un super process. Mais pour moi, tu vois, je me dis, OK, bah, je veux le faire. Mais par contre, il faut que j'automatise derrière. Parce que, tu vois, genre… Si à chaque fois je dois penser de dire ah ouais, au fait, je peux me retrouver avec je sais pas combien de, de calls dans mon truc que j'ai enregistré mais que j'ai pas exploité. Donc, donc voilà. Donc, toi, justement, est-ce que ça pour un peu conclure un peu le podcast, justement, il y a un nouveau métier qui est sorti depuis longtemps hein, maintenant, c'est pas vraiment un nouveau métier, mais qui sont le Sales Ops, où on a eu beaucoup de gens en fait dans des startups, un peu moins dans des grands groupes, qui sont là pour justement faire tout ce que tu dis et tout ce que tu fais toi-même. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même un profil qui coûte cher. Du coup, on n'a pas toujours envie. Et qui, en fait, son apport, il arrive. En fait, on voit son apport, mais ce n'est pas comme, tu vois, genre un sales, je recrute un sales, il y a son ramp-up, je sais combien il va me ramener et je suis rassurée. Et donc, du coup, j'investis. Le sales ops, on n'en sait rien. Donc, toi, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais justement à une boîte qui voudrait, en fait, en tout cas, automatiser ? Est-ce qu'il faut qu'elle prenne un sales, peut-être le meilleur là-dessus ? Est-ce qu'il faut qu'elle recrute un sales ops ? Et si oui, comment elle peut voir, en fait, que son sales ops lui apporte, en fait, de la valeur ?
En fait, si tu veux, c'est ce que j'explique à tout le monde, c'est que, tu vois, moi, je préfère passer une semaine à refaire mes paramétrages, etc., à tout planifier pour pouvoir automatiser, Parce que je sais qu'une fois que cette semaine elle est passée, je gagne peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que la charge mentale que tu libères à tes sales, parce qu'ils ont plus, ils ont plus qu'à cocher une case versus chercher le bon contrat. Ils n'ont plus qu'à cliquer sur un menu déroulant au lieu d'aller demander à un tel ou un tel et donc déranger quelqu'un. En fait, c'est des minutes par-ci, par-là, mais sur une journée, bah, c'est de la charge en moins que tu enlèves. Et ton sales, il sait que quand il est dans les 10% qui manquent, et le closing, c'est super important, quand il est dans ces 10%, il ne se foirera plus. Il n'aura plus d'excuses pour se foirer. C'est-à-dire que dès que le client dit « Ouais, franchement, envoie-moi une propale », ce n'est pas ta propale, elle arrive 2 jours après. C'est ta propale, elle arrive pendant que tu es en train de dire « Ok, je vous l'envoie ». Tu coches, ça part parce que tu as déjà cliqué dans ton CRM, tu as cliqué sur « Ok, donc lui, il veut service 2 ». Ok, le prix, c'est ça. Et hop, envoyer le contrat. Et tu sais que ça, tu vas permettre à les sales de pouvoir le faire. Mais le sales en lui-même ne va pas penser qu'il peut automatiser tout ça parce qu'il faut quand même un regard extérieur, il faut de l'expérience sur ça. Et il faut qu'il y ait une personne qui vienne intégrer ton équipe, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et lui pourra te dire sur, je ne sais pas, moi, ça peut être une demi-journée, une journée, il va te faire un état des lieux, il va te dire, ok, tu perds du temps sur ça, 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 on peut améliorer ça, ça, ça. Et on te dit, bah ouais, ça prendrait peut-être 2-3 jours à mettre en place, une semaine peut-être, mais derrière, voici le temps que tu gagnes par jour, par personne, par process. Et c'est là où c'est intéressant. Ok, c'est des budgets, on ne va pas se mentir, c'est des budgets, mais derrière, en fait, le gain que tu as, parce que tu vois, toi, tu es sales, je pense que chez les sales, une des raisons qui fait qu'ils se barrent des boîtes, que les bons sales partent des boîtes, c'est aussi cette charge mentale avec de l'admin parfois qui n'est pas dans leur job et qu'ils n'aiment pas.
Oui, et surtout, en fait, il y a ça et plus le côté… parce que du coup, vu que tu n'as pas mis en place des process qui facilitent en fait le taf des sales, bah du coup, toi, tu as besoin en fait que tes sales fassent certaines actions pour que ça marche. Donc, tu vas être dans la redite, tu vas dans la répète, tu vas recadrer. Et du coup, tu vas perdre, surtout quand en tant que head of sales, ce rôle-là que tu dois faire de faire monter tes sales sur le côté sympa, tu vois, genre de… comment ils peuvent être plus pertinents dans leur discours, comment ils peuvent apporter encore plus de valeur à leurs clients, comment ils peuvent closer plus vite, comment ils peuvent faciliter la prise de décision, comment ils peuvent prendre de la hauteur aussi également et de évoluer aussi également dans leur carrière. Du coup, tu as, je ne vais pas donner les chiffres parce que je n'ai pas fait d'études, donc ce serait ridicule de faire ça, mais beaucoup de sales, beaucoup de head of sales ou sales managers, pardon, qui sont pas dans leur rôle, en fait, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas bossé là-dessus. Et en fait, ça, c'est un truc, effectivement… Alors, là où tu as raison, mais j'ai l'impression que c'est jamais fini. Moi, c'est pour ça, en fait, tu vois, par exemple, tu as raison de dire que parfois ça prend une semaine, mais il suffit que tu rajoutes un nouveau marché, il suffit que tu aies une autre configuration. Surtout, je parle pour les scale-up, hein, évidemment, les boîtes qui sont. Je pense que pour les grands groupes, c'est encore plus simple. Pour moi, finalement, les grands groupes, c'est plus simple d'automatiser parce qu'ils sont sur des process qui ont été itérés, qui ont marché, etc. Donc, par contre, une start-up, une scale-up, bah, tu vois, moi, demain, je peux avoir une équipe newbies, puis demain, je peux avoir des accounts, et puis demain, je peux avoir des ops, et puis demain, je peux avoir des CSM, et puis demain, je peux avoir le product qui fait du product-led sales, donc du coup, qui fait de la vente speed by service, et après, j'ai une autre équipe qui fait de l'enterprise. En fait, ça change tellement qu'en fait, mes process, ils doivent changer tout le temps. Donc, ça veut dire que si mes process changent tout le temps, bah, je dois repenser à chaque fois process égale nouvelle automatisation. Je ne sais pas si
justement, justement, en fait, c'est là le truc, c'est que, tu vois, je te fais le parallèle avec une maison. Tu construis ta maison. Si tu dis à l'électricien d'arriver et juste de brancher, il va dire, mais les plans, ils sont où? Les prises, elles vont aller où? Etc, etc. Tu ne vas pas lui dire, oh, ben, vas-y, mets une prise là, mets une prise là. Il va d'abord de réfléchir au truc. Et en fait, c'est là où tu te dis, le gars ou la personne va arriver, va te faire un plan en te disant, voilà, si jamais tu veux automatiser, si jamais tu avances et que tu accélères, il faut que tu penses à ça, ça, ça. Ce qui fait que dans ton équipe ou dans ton staff ou le CEO, peu importe, il commence à avoir cette culture-là, à se poser les bonnes questions. Et en réalité, si tu tombes sur quelqu'un qui t'explique bien les choses, tu peux répliquer toi-même. Il faut juste qu'il te donne la trame. Et c'est là où tu vas dire, bah tiens, quand tu as une équipe, pense à ça, ça, ça. Okay. Quand tu as une deuxième équipe, pense à ça, ça, ça. Okay. Et après, tu peux faire de toi-même. C'est de te dire, bah ok, maintenant je sais que mes process, ils sont établis pour développer une équipe. Donc maintenant, si j'ai une nouvelle équipe, un nouveau type de business ou un nouveau type d'activité, c'est la même chose, il faut juste que je l'adapte. Et tu vas faire les branchements plus rapidement parce que la personne est déjà acculturée. Et c'est là, en fait, la différence parce que les outils, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'ai arrêté d'expliquer ce que je fais. Je montre avec des tutos, des démos, etc. pour que les gens puissent se projeter. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire. Moi, j'estime que un bon sales ops ou appelle ça comme tu veux, c'est quelqu'un qui va permettre également de transmettre pour que les gens comprennent et qu'ils puissent refaire par eux-mêmes. Après, s'ils ont la flemme de refaire par eux-mêmes, bah, tu payes, tu as la flemme, tu payes. Mais si tu as compris et que tu es capable de le refaire, parce que les outils sont simples en réalité, tu vois, les outils sont très simples, Si tu es capable de le refaire par toi-même, c'est beaucoup plus simple et tu pourras adapter en fonction de ton activité, de l'évolution de ton activité, parce que tu as déjà compris la base. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a un truc à faire. C'est pour ça que les boîtes ont du mal. C'est parce qu'elles se disent, ouais, mais une fois que la personne elle est partie, on est mort. Non, la personne, elle doit être là, elle doit faire, elle doit vous montrer pour que vous puissiez répliquer derrière. Moi, la phrase que j'utilise, c'est j'aime pas être une perfusion pour mes clients. C'est-à-dire que je reste une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, à la fin, tu sais faire. Si tu as la flemme, c'est autre chose. La flemme, ça se paye. Mais tu sais faire. Donc, tu as les capacités de pouvoir faire. Peut-être qu'il y a un nouvel outil qui va sortir. Tu vas m'appeler et me dire, ouais, mais est-ce que ça peut être intéressant pour mon business ou pas? Je te dis oui, je te dis non, je t'explique. Mais en tout cas, tu sauras faire et tu sauras refaire en fonction de ton business et de ton activité. Et c'est là où je sais que les boîtes ont peur parce qu'elles disent, ouais, mais une fois que le mec, il est parti, on est dans la merde. Alors que...
Ouais, je suis complètement d'accord. Bon, en tout cas, c'est une bonne manière de conclure. Est-ce que tu... T'as un conseil ou un nouveau hack ou un nouveau truc que tu donnerais à un sales ou une équipe sales avant qu'on se quitte?
Il y a un truc que j'ai testé moi récemment, j'en parlais ce matin dans un post, c'est l'event-based marketing. C'est en gros, plutôt que d'aller essayer de trouver des prospects qui t'intéressent, tu vas par exemple sur des événements où tu sais qu'il va y avoir tes prospects. Un peu comme à l'époque où on allait dans les salons parce qu'on savait que là-bas, tu avais toutes nos cibles. Maintenant, il y a tellement d'événements, de webinaires, de machins, de trucs que tu peux trouver des événements qui t'intéressent. Et en fait, en faisant ça, tu as des retours qui sont super incroyables parce que tu sais que la personne, elle a des problèmes. Parce qu'elle s'est inscrite, elle a dit ouvertement, c'est comme s'il y avait un événement apprendre à automatiser et tu as 1000 inscrits. C'est le loup qui rentre dans la bergerie. Tu vois, je rentre là-dedans, je me dis alors. Qui je récupère. Et franchement, moi, je trouve que c'est un hack ultra puissant qu'on n'utilise pas suffisamment parce qu'aujourd'hui, tu as tellement d'événements que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Tu passes sur WeEvent, tu regardes des events, y a des trucs super intéressants. Parfois, c'est des événements en ligne et sur ta thématique. Et après, tu te sers, quoi. Tu vas, tu scrapes les participants et tu avances.
Et tu te sers comment, en scrapant?
Tu scrapes. Et c'est tellement facile. C'est okay. Tellement simple.
Tu me donneras les outils de scrapping que je donnerai en cadeau de cet épisode.
Je te fais même une démo si tu veux.
Ok, et eh ben écoute, je mettrai la démo à toutes les personnes qui seront intéressées à la suite de cet épisode. Bah, écoute, merci beaucoup Uri pour cet échange et je te souhaite d'automatiser, d'aider encore plus de boîtes et puis à bientôt.
Bah avec plaisir, merci à toi pour l'invitation et puis j'espère que ça aidera pas mal de personnes.
Yes, je suis sûr. Ciao, ciao.
À bientôt, ciao.
Ciao. C'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore, Uri, pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn, je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts ou Spotify, tu peux me laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin, accéder à des ressources ou ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à la newsletter Vendu. Je te mets aussi le lien toujours en description. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.